Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toute la rédaction bossait que sur le Covid. Quand on est en alerte attentat, en effet, on est très nombreux à bosser sur les attentats. Mais là, c'était toutes les locales, c'était tout le monde, quoi.
Plus de 2 ans de crise sanitaire due au Covid-19, la maladie respiratoire liée à un nouveau coronavirus apparue en Chine fin 2019. 2 ans d'actualité écrasée par la pandémie et ses conséquences. Des centaines d'articles sur les infections et les défenses immunitaires, les décès et les guérisons, les tests, les masques, les vaccins, les soignants et les premières, deuxième, troisième lignes, l'état des établissements de santé et les EHPAD, les peurs mais aussi les joies. 2 ans et une mission quand on est journaliste, trouver et vérifier l'information, interroger, transmettre, garder le cap dans la tempête quand l'état des connaissances se fait et parfois se défait. Quel équilibre aussi entre la vie professionnelle et puis la vie de tous les jours, comme tout le monde, qu'on vit comme tout à chacun la pression, l'anxiété, les bonheurs et les malheurs de la vie. Bienvenue dans Minute Papillon, un podcast d'actu de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et pour raconter comment les journalistes de notre rédaction ont travaillé sur le Covid-19 depuis 2020.
Je suis Anissa Boumediene, journaliste santé à 20 minutes, voire journaliste Covid depuis 2 ans.
Je suis Oyana Gabriel et je suis journaliste santé pour 20 minutes. Ça fait 5 ans et demi que je suis dans cette rubrique et depuis 2 ans, je fais globalement quasiment que du Covid.
Comment le Covid est entré dans vos vies ?
Je rentre dans l'arène Covid début janvier 2020. Je fais mon petit tour quotidien de l'actu santé nationale et internationale et je vois ce qui se passe à Wuhan. Et donc un matin, je me souviens, on est début janvier et je dis à mon chef lors de la réunion pour les sujets du matin, écoute, j'ai lu quelque chose sur cette mystérieuse pneumonie chinoise qui sévit, je ferai bien un truc là-dessus. Et donc, ça a été le premier papier Covid d'une très, 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 très longue série qui n'est toujours pas terminée.
Bah, dès fin décembre, on voit des dépêches sur ce qui se passe en Chine, mais on n'imagine absolument pas que ça va donner une pandémie. Au mois de janvier, ça commence à devenir plus sérieux et on lance un live, je crois que c'est mi-janvier. Un live, ça veut dire qu'au lieu de faire un article, on va avoir un article tout au long de la journée pour que le lecteur, au lieu d'avoir 10 papiers à lire, il va juste sur notre live et il a 50 infos en un seul endroit. Première vague, une déflagration, quoi. De l'inédit, quoi. On a mis quelques jours à s'organiser parce que toute la rédaction bossait que sur le Covid. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Quand on est en alerte attentat, en effet, on est très nombreux à bosser sur les attentats. Mais là, c'était toutes les locales, c'était tout le monde, quoi. Donc, il fallait bien se répartir sur... Bon, alors, on a Lille qui fait un reportage à l'hôpital. Par contre, toi, t'es plus sur le côté recherche. Et comme on est 2 journalistes santé, bah, il fallait aussi bien qu'on se coordonne. Mais ça s'est vite mis en place. Et je pense que les chefs ont fait un super boulot de coordination. C'était pas évident. Mais moi, je pense que j'ai pris conscience de la gravité du truc vachement tard. Le 12 mars, quoi. Le jeudi où on entend que Macron va annoncer la fermeture des crèches et des écoles. Ça veut dire qu'on peut plus bosser, en fait. Pour beaucoup de parents, ta vie, elle change, en fait, quand tes enfants sont à la maison. Donc, j'ai vraiment compris que le jeudi, ça va pas du tout rigoler, en fait. C'est ultra grave, cette maladie. Alors qu'il y avait encore vachement de médecins qui me disaient dans mes interviews, c'est une grippette. On est resté sur ce mot-là hyper longtemps, en fait. À partir du moment où Macron annonce ça, j'ai fait que du Covid pendant un an, je pense.
Dans les tout premiers temps, il s'agit de déblayer un petit peu le mystère. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas épidémiologiste. Donc, tout ce qu'on doit faire, nous, en tant que journaliste santé, d'abord, quand on a un sujet comme ça qui émerge, c'est de trouver les bons interlocuteurs. Je ne suis pas là, je ne sors pas ma boule de cristal pour dire qu'est-ce qui pourrait se passer. Je suis là pour justement donner la parole aux meilleurs interlocuteurs sur le sujet, un sujet dont personne ne connaît rien. Il y a eu des coronavirus auparavant. Le MERS, c'était dans les pays du Moyen-Orient. Le SRAS, c'était dans une partie de l'Asie. Donc finalement, en fait, à ce moment-là, rien n'indique qu'on va au-devant d'une contagion mondiale et qui va s'installer dans la durée. Donc dans un premier temps, il s'agit de faire un petit peu la lumière, de se projeter sur la suite que pourrait prendre la propagation de ce virus qui va se transformer en pandémie et de trouver les bons interlocuteurs. Mais même les bons interlocuteurs, au départ, me disent c'est impossible qu'on arrive à un stade pandémique.
Au début, moi, je n'avais pas 60 infectiologues dans mes contacts. Donc, assez vite, il a fallu vachement renouveler nos contacts et savoir les 3-4 attachés de presse qu'il faut avoir vraiment en tête pour savoir qui contacter. Donc, on a fait une liste de contacts partagés, des gens du CNRS, de l'INSERM, de la PHP, hyper important à pouvoir contacter. Mais comme dans chaque actu hyper forte, tout le monde va contacter les mêmes. Et donc, tu es face à une difficulté de... Non seulement, tu dois vraiment beaucoup produire dans un timing serré, et puis il faut que tu arrives à joindre des interlocuteurs qui sont vraiment surbookés. Et moi, j'étais tout le temps en train de me dire « Non mais là, si je prends du temps à un soignant, c'est du temps en moins qu'il a pour ses patients. » Et après, au bout d'un moment, je me suis dit « Non mais il y a les chercheurs aussi. Les chercheurs, ils ne sont pas au chevet des patients. Il y a d'autres personnes que tu peux interroger. » Et ça, ça a été un gros travail pendant 2 ans, de ne pas donner la parole tout le temps aux mêmes personnes. Je ne dis pas qu'on a réussi à chaque fois. Il y a certains interlocuteurs qu'on a eu beaucoup. Mais d'une part, il y avait un boulot de fiabilité, comme jamais. C'est-à-dire, d'habitude, moi, j'interviewe un spécialiste de la schizophrénie, ça ne me pose aucun problème. Là, avec cette crise, il y a quand même certains médecins qui n'ont pas trop respecté le deal, enfin, voilà, qui ont dit beaucoup de bêtises. Et c'était vachement compliqué de se dire, ah oui, donc lui, attention, est-ce que c'est une source fiable? C'est devenu ultra important à qui tu donnes la parole.
Les premières interventions de Didier Raoult, c'est quand même, il faut replacer les choses dans leur contexte, on est confiné, on a du mal à trouver du gel hydroalcoolique, on n'a pas de masque. Moi, j'ai vu des gens avec des loups, des masques de nuit sur la bouche et le nez dans le métro. On est tous totalement à la rue à ce moment-là. Donc, quand il y a quelqu'un qui a une expertise, qui est reconnue dans son domaine de recherche à l'époque et qui assène comme ça des choses presque ayant une valeur de vérité absolue, légitimement, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'y croire. Nous, après, toute la difficulté et tout ce que l'exercice de journaliste nous impose, c'est justement d'arriver à prendre de la distance avec ça et de se dire... Ok, il y a des éléments sur lesquels il va baser ses recherches et faire ses affirmations. Il faut les comparer avec les autres éléments dont on dispose à ce moment-là dans la littérature scientifique et puis voir s'il y a un fondement. Et puis de toute façon, assez rapidement, les choses se craquellent. On voit qu'il y a des biais méthodologiques, que la manière dont les études sont menées, tous les essais cliniques sont très 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 encadrés. Il y a des règles très strictes. Là, en l'occurrence, on va voir dans chacune des recherches qu'il a menées que les protocoles ne sont pas suivis. Donc forcément, les choses, ces études, ces travaux, ces conclusions sont démontées au fur et à mesure assez rapidement.
Dans les centaines d'articles, de vidéos, d'infographies réalisées, que retenez-vous?
En fait, cette pandémie, c'était hyper compliqué pour tout le monde parce qu'il fallait s'adapter tout le temps et que tu as vraiment des informations hyper importantes chaque minute. Enfin, t'as un nouvel article qui arrive qui contredit l'article que t'as lu la veille. Il y a des articles que j'ai écrits qui ont été vachement lus et j'ai eu des retours, que ce soit d'amis ou de collègues, me disant « Ah ben, je me posais exactement cette question-là ». Donc, je pensais à un article, c'est « Est-ce qu'il peut y avoir des effets indésirables des vaccins à distance de l'injection », c'est-à-dire 10 ans après. J'ai reçu des textos d'amis qui m'ont dit « Ah bah ton article, il m'a vachement rassurée, merci. » Et j'ai vérifié, il a été vu 400 000 fois. Ça n'arrive pas tous les jours, en fait, dans une vie de journaliste. Donc tu te dis, peut-être que j'ai répondu aux questions de certains internautes, c'est cool.
Au cours des 2 dernières années, la quasi-totalité de mes papiers ont pour titre « Coronavirus 2. » Et ensuite, j'annonce la grande nouvelle du jour. Vraiment, j'ai été cannibalisée par le coronavirus. Ouais. J'ai emprunté différentes voies d'accès pour parler du virus. Les articles qui sont axés sur très santé, sur la recherche, sur les vaccins, sur l'immunité. Ce qui était important pour moi, c'était aussi de donner la parole aux lecteurs. Et du coup, là, ça a permis de faire des sujets parfois marrants, parfois plus graves, mais qui collent aussi aux préoccupations de nos lecteurs. Alors, j'ai des idées de sujets comme ça qui me reviennent en tête. Où ça va être, par exemple, la course pour arriver à trouver un créneau de vaccination quand la vaccination s'est ouverte au grand public et qu'on était tous à se connecter frénétiquement dans l'espoir de trouver un créneau. Donc, les astuces de certains qui ont pu accéder au vaccin un peu plus tôt que leur tranche d'âge ne leur permettait. Là, ces dernières semaines, j'ai interviewé une personne qui venait de contracter le coronavirus pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, donc avec toute la lassitude qu'on peut imaginer. C'est assez intéressant d'aller aussi au plus près de ce que les gens vivent. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est sur la crainte des femmes qui s'étaient fait vacciner tout à fait volontiers, qui étaient à jour de leurs deux premières doses. Et quand la campagne pour la dose de rappel s'est ouverte, j'ai fait un appel à témoignages pour savoir si les lectrices avaient une petite appréhension face à cette dose de rappel par rapport au risque éventuel de troubles menstruels. Et j'ai eu, peut-être 1200 témoignages. Ça permet de voir aussi, à l'instant T, dans une pandémie qui soulève des problématiques très larges et qui se renouvelle, en fait, et justement de voir ce qui se passe aussi dans la tête de chacun de nous face à ce virus.
Comment avez-vous vécu ces deux années entre votre métier de journaliste santé qui ne fait que du Covid et votre quotidien où le Covid est partout?
Moi, je fais une énorme différence entre, encore une fois, premier confinement et la suite. Parce que j'ai une fille qui avait à l'époque 4 ans et que donc 3 mois sans école, c'était l'enfer. Parce que je travaillais à la maison, tout le temps. Heureusement, il y avait mon mari qui a été mon héros. Et les deux premières semaines, j'ai fait que bosser. Mais la nuit, je ne dormais pas pour bosser. Et c'est lui qui a tout géré. Et au bout de 2 semaines, je pleurais de fatigue. Et donc, il m'a dit, là, tu vas finir à l'hôpital. Donc, super, tes lecteurs seront bien avancés. Les soignants qui vont devoir te soigner seront bien avancés. Donc, ça, c'est... Et puis, ta fille et ton mari aussi. Donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, déjà, il va falloir que je dorme. Il va falloir que je ralentisse et puis il va falloir que au moins un jour par semaine, lui, il travaille. En fait, c'était du non-stop, quoi. C'est-à-dire que les jours où je bossais beaucoup. Hein. Et les jours où je bossais pas, j'étais toute seule avec ma fille, enfermée à la maison, sans parc. Franchement, plus jamais. Et juste, je voudrais dire un truc. C'est que les premières semaines, j'étais aussi hyper angoissée pour mes proches. Et du coup, il y a eu ce temps de gestion émotionnelle. J'ai pas le mot, mais... Moi, j'étais étonnée. Certains n'ont pas appelé leurs potes. Moi, quasiment tous les jours, je me disais, alors, lundi, j'appelle ma meilleure amie. Mardi, j'appelle ma grand-mère. Mercredi, j'appelle ma mère. Enfin, on avait des rendez-vous un peu pour dire, ça va, tu tiens le coup. Et ce temps-là, en fait, il était hyper important. Et je trouve que pendant cette crise, en tout cas, moi, l'amitié, elle m'a vraiment permis de tenir. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas se voir. Les coups de fil aux copines, c'était hyper important, quoi. Mais il fallait prendre ce temps dans le plein temps de maman et le plein temps de boulot, quoi.
Au même titre que n'importe quelle autre personne qui a continué à travailler pendant cette pandémie, on en a marre. On en a marre d'être confiné, on en a marre de ne pas pouvoir sortir, on en a marre de fêter son anniversaire confiné, à ne pas pouvoir aller à plus de 1 ou 10 kilomètres, je dis ça 2 années de suite, hein, de chez soi. Donc oui, forcément, ça tape sur le système. Et puis, quand on travaille la journée sur le Covid, qu'on est biberonné toute la journée aux infos Covid, qu'on déconnecte, qu'on regarde le JT le soir et que ça ne parle que de Covid. Oui, à un moment, le coronavirus, ça, c'est gonflant. Hein. On va pas se mentir. Et pour le coup, les petits instants de vacances ou quand on a retrouvé la capacité, la possibilité de partir un petit peu, c'est très volontiers que je ne regarde pas les infos pendant mes congés pour aussi garder un peu de fraîcheur et de bien-être psychologique.
En fait, je suis journaliste santé, je suis pas journaliste Covid et j'aimerais tellement pouvoir reprendre un quotidien un peu plus normal de journaliste qui peut faire des reportages, qui peut donner la parole à des gens différents. Voilà, pas que dans quelque chose d'hyper anxiogène. Donc non, je suis un peu sur les rotules. Après, je reprends vite du poil de la bête. Enfin, vraiment, genre, en juin dernier, c'était un plaisir, mais renouvelé, enfin, de pouvoir retrouver des gens, faire des portraits, faire du reportage, c'était vraiment très chouette. Je suis contente, j'ai fait plein de papiers sur l'endométriose, c'est important aussi de parler d'autres maladies. Mais je pense que, comme plein de Français, les journalistes santé sont fatigués par cette crise sanitaire et c'était pas très facile à vivre. Je sais pas le dire mieux.
Merci à Anissa Boumediene et Oyana Gabriel pour leurs paroles. Minute Papillon, c'est le podcast d'Actu de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement pour nous écrire audio@20minutes.fr. À bientôt.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.